France Inter. Hélène Roussel. Le 5-7.
Il est 6h21, on reste à la page écologie puisque nous recevons la directrice de l'association Zero Waste, Flore Berlingen. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans le 5-7 de France Inter. En janvier dernier, la Commission européenne avait tiré la sonnette d'alarme. Si on ne fait rien en 2050, soit dans une trentaine d'années, autant dire demain, il y aura davantage de plastique dans les océans que de poissons. C'est une info France Inter. Bruxelles va faire aujourd'hui même une série de propositions pour réduire le plastique. Avant de rentrer dans le détail de toutes ces mesures, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Flore Berlingen, ce que représente la pollution plastique dans le monde?
Mais vous venez de le dire, hein, autant de plastique, voire plus que de poissons dans les océans, ça nous donne une mesure de l'ampleur du problème. Chaque année, les pays européens déversent 100 000 tonnes de plastique dans les océans. Donc voilà, on voit que uniquement pour l'Europe, c'est déjà une quantité énorme et on la retrouve sur les plages, on la retrouve dans ce qu'on appelle le continent de plastique, qui en réalité est plutôt une soupe de plastique. Et puis on la retrouve aussi dans les cours d'eau, c'est pas uniquement dans les océans, c'est aussi dans tous les milieux naturels d'une manière générale.
C'est une pollution qui peut être aussi invisible. Vous parlez des cours d'eau, on peut penser à l'eau du robinet, l'eau minérale, c'est dans l'air aussi, ce qu'on respire, c'est dans nos vêtements.
Oui, et puis c'est vrai que le plastique, une fois dégradé, devient presque invisible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'un fragment de plastique de quelques millimètres, il peut lui-même se dégrader en micro-nanofragments, donc plusieurs milliers de nanofragments qui vont se retrouver dans la chaîne alimentaire et la remonter. Et donc, ce qui pose problème de ce point de vue-là, ce sont tous les additifs qu'il y a dans les plastiques pour améliorer leur qualité de flexibilité ou leur couleur. Et ces plastiques-là, ces additifs, peuvent poser problème puisqu'ils peuvent être considérés comme des perturbateurs endocriniens.
On connaît les effets hein, sur les poissons, sur les tortues. C'est vrai que sur les hommes, on en parle moins. Vous parlez de perturbateurs endocriniens. Quels sont les effets? Quelles sont les conséquences sanitaires? Est-ce qu'on les connaît?
Alors c'est ça l'ennui, c'est que on en parle moins parce qu'on a du mal à les mesurer. C'est quelque chose pour lequel beaucoup de recherche est encore nécessaire. Mais en fait, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le mesurer là aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque pour la fertilité humaine, par exemple.
Il y avait dans l'Obs hein, la semaine dernière tout un numéro spécial qui parlait de perturbateurs endocriniens, mais aussi de problèmes sur la fertilité, sur le QI. Le plastique peut avoir toutes ses incidences sur nous. Alors aujourd'hui, l'Union européenne doit faire une série de propositions pour limiter l'usage du plastique, comme par exemple interdire des pailles en plastique, les couverts en plastique ou encore les cotons-tiges qui font partie des 10 produits qu'on retrouve le plus souvent sur les plages. Premièrement, Flore Berlingen, vous diriez que c'est enfin une prise de conscience de l'Europe ?
Oui, c'est un message très fort. C'est une proposition de la Commission européenne. Alors bien sûr, elle va être discutée. Mais le fait que ça vienne de la Commission, qui avait déjà, vous l'avez rappelé, sonné l'alerte en début janvier avec la publication d'une stratégie plastique. Voilà, le message est fort. C'est-à-dire, le recyclage ne va pas suffire. Il faut aussi couper le robinet, tout simplement. Parce que tous les objets que vous venez de mentionner, ce sont donc des objets ou des emballages à usage unique, qui sont souvent faiblement, voire pas recyclables. Et donc pour ces objets vraiment problématiques qu'on retrouve beaucoup sur les plages, vous l'avez rappelé, eh bien la meilleure solution, c'est l'interdiction pure et simple.
Et franchement, interdire les pailles ou les touillettes dans le café, ça paraît presque dérisoire par rapport à l'ampleur de la pollution que vous avez décrite, Flore Berlingen. Ça suffit, franchement.
C'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des déchets légers, anodins, sans grandes conséquences. Mais justement, par leur légèreté, c'est aussi ça qui fait qu'on les retrouve le plus sur les plages et dans les milieux naturels. En fait, on se rend pas compte, parce que nous, notre consommation, c'est quelques unités par jour ou par semaine. Mais tout ça additionné, c'est plus de 3 milliards de pailles en plastique par Français chaque année. C'est plus de 2 milliards de gobelets en plastique. Donc, tout ça additionné, ça fait quand même une quantité importante.
Vous parliez de couper le robinet, par exemple, pour les filtres de cigarettes. Bruxelles va sans doute utiliser plutôt le principe du système pollueur-payeur. Les fabricants de tabac vont devoir sans doute payer un peu plus cher et donc le consommateur en bout de chaîne aussi. Là, on coupe pas le robinet. Idem pour les bouteilles en plastique, d'ailleurs. On pense à des consignes, oui. Un petit peu comme pour le verre. Donc, on n'est pas en train de couper le robinet, là.
Effectivement. En fait, la Commission a proposé plusieurs mesures différentes qui dépendent de l'objet considéré. Pour les objets et emballages pour lesquels il y a une alternative déjà disponible, là, la Commission propose une interdiction. Parce que la solution, elle existe déjà, elle est déjà sur le marché. Les cotons-tiges, par exemple, on n'a pas besoin de les fabriquer en plastique. On peut les fabriquer en carton rigide. Donc là, voilà.
Idem pour les couverts en plastique.
Voilà, c'est finalement une attitude assez pragmatique de la Commission. Pour les bouteilles en plastique, nous en tant qu'ONG, on considère qu'il y a déjà des alternatives. Il y en a peut-être pas pour tous les produits, et donc là, la Commission, son objectif, c'est que le recyclage soit maximisé, soit optimisé, et donc de favoriser la collecte par des mécanismes de consigne ou par ce que vous avez rappelé, les filières REP de responsabilité élargie du producteur, qui permettent qu'il y ait une contribution financière des entreprises qui mettent sur le marché ces produits pour la collecte et le recyclage en fin de vie.
Les grandes entreprises ont signé un pacte au Royaume-Uni, je crois, pour que tous les emballages plastiques soient désormais 100% recyclables ou biodégradables. Pourquoi c'est si difficile de faire aboutir des combats écologiques qui paraissent ultra urgents dans l'Union européenne ?
Oui, c'est vrai.
À l'échelle de l'Union.
En plus, l'engagement que vous évoquez, il est de mémoire, à horizon 2030. C'est quand même un petit peu loin par rapport à l'urgence à agir. D'autant plus que les emballages recyclables, ils existent déjà. Donc c'est un choix qui pourrait être fait quand même dès maintenant pour un certain nombre de produits et qui n'est pas fait. Donc ça, on peut le regretter. Ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est assez intéressant, parce que on voit que l'impact d'un documentaire de David Attenborough qui a été diffusé il y a quelques mois, a permis une sensibilisation assez soudaine et importante de la population.
Et de plusieurs grandes marques.
Et de plusieurs grandes marques, mais parce qu'elles voient que c'est quelque chose qui préoccupe les gens. Et donc, une adaptation du discours et des décisions en fonction de ces préoccupations qui évoluent.
Pourquoi on attend mal en Europe ? Il y a une question de lobby, il y a une question d'industriel derrière qui mettent la pression.
Ah bah bien sûr, il y a des résistances, il y a des intérêts qui s'expriment pour freiner un petit peu les choses, ça c'est certain. Mais là, je crois que les choses sont en train de bouger, justement. On le voit avec ces annonces aujourd'hui de la Commission européenne. Et j'espère que la France, que le gouvernement français, fera partie des pays qui vont soutenir les mesures de la Commission.
C'est pas trop tard pour le plastique, pour sauver la planète.
Alors, il est effectivement temps d'agir pour enrayer ça. Mais finalement, il est jamais trop tard, dans le sens où, bien sûr, on peut s'attaquer au problème en essayant de collecter les plastiques dans les océans, pour essayer d'en récupérer une partie. Mais si pendant ce temps-là, le robinet n'est pas fermé, qu'on continue à en mettre, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, il n'est pas trop tard, parce qu'il faut couper ce robinet.
Et l'Europe va dans le bon sens, on vous a entendu, Flore Berlinghen, directrice de l'association Zero Waste. Merci d'être venue au micro de France Inter ce matin. Bonne journée. Au revoir.